Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, P comme Ping Yao, le festival international du film de Ping Yao, Tigre et Dragon, avec Jajang Ke, son fondateur, Marco Müller, son directeur artistique, et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est sans doute avec Wang Bing le plus grand cinéaste chinois actuel. Longtemps interdit dans son pays, considéré encore à l'étranger comme une figure underground, Jajang Ke a pourtant fini par trouver sa place, une place certes toujours précaire, dans un système cinématographique paradoxal comme toute la Chine. D'un côté, une bulle spéculative symbolisée par une frénésie de construction de multiplex dans tout le pays et des budgets de films colossaux comme l'a illustré l'affaire Fan Bing Bing, qui a vu la plus grande star chinoise disparaître pendant 3 mois pour ressurgir début octobre après contrition publique pour ses dissimulations de salaire au fisc et une amende considérable. De l'autre, un durcissement politique notable et une loi votée il y a 2 ans qui réaffirme l'impérieuse nécessité pour le cinéma de se conformer à l'idéologie socialiste et de promouvoir ses valeurs. Figure de proue du cinéma indépendant en Chine, Jiajang Ke, contrairement à ses aînés de la génération précédente comme Zhang Yimou ou Chen Kaige, n'a rien cédé côté cinéma de son exigence éthique et esthétique, comme en témoigne son dernier film, Les Éternels, en compétition à Cannes et dont on attend la sortie en fin d'année. Jajang Ke produit des jeunes cinéastes, il a lancé un circuit national de salles, la National Art House Film Alliance, afin que les films d'art et essai, chinois comme étrangers, puissent grignoter une part du deuxième marché mondial du film, peut-être bientôt le premier, et il s'est même fait élire en mars député à l'Assemblée national populaire, député de sa région natale, Shanxi, eh bien, s'il s'est fait élire, c'est, dit-il, pour y défendre, là encore, la voix d'un cinéma indépendant. C'est donc dans le même esprit que dans la ville multimillénaire de Ping Yao, toujours dans le Shanxi, région industrielle et minière à rien mépriser, où il a tourné la plupart de ses films, il a lancé l'an dernier un festival international de cinéma extrêmement ambitieux, où dans une ancienne usine de moteurs diesel pour tracteurs, se croisent films d'auteurs internationaux et jeunes pousse du cinéma chinois. Plan large s'est rendu à la 2e édition du Ping Yao International Film Festival qui s'achève ce soir. On y a rencontré Jajang Ke et celui qu'il a choisi pour la direction artistique et la sélection des films, un grand maître de la forme festivalière, Marco Müller, qui a marqué de son empreinte Rotterdam, Locarno et Venise pour n'en citer que quelques-uns, histoire de comprendre les enjeux du festival et ce qui se joue en ce moment dans le cinéma chinois. En fin d'émission, nous ferons un tour avec Mathieu Macheret dans L'au-delà terrifiant de Lucio Fulci qui sort en Blu-ray et DVD, mais sans plus attendre, au-delà des montagnes, direction Ping Yao. Jajang Ke, quand vous avez créé ce festival de Ping Yao, est-ce que vous avez pensé au jeune homme que vous étiez il y a 30 ans, né pas très loin d'ici, dans la même province du Shanxi, à Fengyang, et qui avait le plus grand mal à voir des films d'auteur?
Si je regarde le jeune garçon d'il y a 30 ans à Fengyang, je pense que c'est un garçon qui désirait vraiment voir le monde extérieur et le monde du cinéma extérieur. Malheureusement, il n'y avait ni Internet, ni beaucoup de publications du cinéma. Donc, on n'avait pas vraiment beaucoup d'accès au cinéma étranger. Donc, voilà, maintenant, mon regard porté sur lui.
Vous savez,
dans les années 80, la Chine a commencé à voir l'émergence des salles de projection. À l'époque, c'était juste une télé posée au milieu de la salle avec une cassette VHS, le type, et on regardait beaucoup de films commerciales hongkongais. Malgré cela, j'ai quand même découvert Cui Hak, j'ai découvert Tony Wu, etc. Donc pour moi, c'était un monde fascinant. Maintenant, 30 ans après, à Pingyao, on a non seulement accès à des films asiatiques comme du cinéma singapourien, mais aussi du cinéma chilien ou de l'Afrique du Sud. Donc c'est beaucoup plus diversifié. Vous savez, le thème de notre deuxième festival de cinéma, c'est en chinois le retour au marché. En français, je pense que ça veut dire le cinéma qui retourne à la vie quotidienne, à la vie ordinaire. Et la vie ordinaire, ça parle bien des gens comme moi il y a 30 ans.
La vie ordinaire, ce sont ces films-là que vous avez découverts quand vous avez commencé à voir des films étrangers, des films comme Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, des films comme Pickpocket de Bresson, et quand on connaît votre filmographie, à partir du premier, Zhao Wu, artisan pickpocket, on sait à quel point ça a marqué votre cinéma. Est-ce que vous espérez que certains des films que vous allez montrer ici marqueront de la même manière de jeunes cinéastes qui formeront la septième ou huitième génération de cinéastes chinois ?
Tout d'abord, je voudrais parler du pourquoi. Pourquoi j'ai choisi Pingyao en tant que lieu pour le deuxième festival, le premier festival. Vous savez, Pingyao est juste une petite ville avec 520 000 habitants, mais j'ai choisi Pingyao pour deux raisons. D'abord, Pingyao, c'est la ville la mieux conservée, la plus grande en Chine pour refléter la vie quotidienne du temps passé. Et la deuxième chose, c'est que nous pouvons voir une vie ordinaire chinoise qui est vraie, authentique et naturelle. Nous avons choisi Pingyao, une petite ville, parce que nous voulons rappeler le lien entre le cinéma et la vie, entre la création et un lieu de mémoire. Alors, cette année, nous avons choisi 52 films venant des réalisateurs jeunes et aussi une dizaine de films de l'époque soviétique, 50 ou 60, et aussi beaucoup de films venant des régions pas très familières pour le public chinois. Par exemple, le cinéma du Kazakhstan, le cinéma chilien, le cinéma du Singapour. Parce que nous voulons montrer, en fait, une chose en commun entre ces films, c'est la vie quotidienne, la vie ordinaire que ces films montrent. Par exemple, le film singapourien, ça parle de travailleurs migrants et comment ils vivent dans une terre inconnue. Le film chilien, ça montre une vision utopique qui s'appelle « Too late to die young ».
Pour reprendre ma question, est-ce que en choisissant ce type de film, vous voulez montrer à des jeunes potentiels futurs cinéastes chinois qu'on peut faire ce genre de cinéma un peu partout dans le monde et que c'est une manière aussi de transmettre votre pratique, même si ce ne sont pas vos films que vous montrez, mais ce que vous décrivez, ça ressemble aussi au cinéma que vous faites.
Tout d'abord, je voudrais souligner que je ne suis pas le seul qui détermine la sélection du cinéma. Nous avons effectivement Monsieur Muller, Marc Muller, qui, avec ses 9 consultants de partout du monde, qui regardent les films, 1400 films dans l'année. Et ils ont choisi 55 films. Moi, je fais partie aussi de cette sélection. Je participe activement à réfléchir sur le thème, la direction de ce festival. Nous ne voulons pas devenir un grand, grand festival. Par contre, nous voulons avoir un festival qui a des idées prononcées et proposées. Donc, au niveau de diversification, au niveau de culture étrangère.
Thank you.
Il est important, effectivement, j'ajoute que ce festival se passe à Pingyao, dans cette région qui est la vôtre, celle du Shaanxi. Et on est frappé, quand on connaît un peu votre cinéma, quand on arrive ici, de reconnaître certains décors. Par exemple, les murailles de Pingyao, il me semble qu'on les a vues dans Plateforme. Et puis, le festival se tient lui-même dans une ancienne usine qui pourrait être un décor d'un film de Jiazhangke. Ça pourrait être dans Still Life, ça pourrait être dans Useless. Est-ce que vous avez aussi pensé votre festival comme un cinéaste ? Quelles questions de mise en scène vous vous êtes posées dans l'organisation même de ce festival ?
Nous
voulons rapprocher le cinéma à la vie ordinaire et ne pas montrer un espace fantasmé, très luxueux, mais qui n'a rien à voir avec la vie quotidienne. En fait, vous savez, avant la création du premier festival, beaucoup de gens se posaient la question sur le lieu de Pingyao. Est-ce qu'un petit lieu comme Pingyao pouvait avoir tant de succès avec le public ? La réalité a montré que oui, nous avons non seulement un public venant du Shaanxi, mais aussi de la Chine entière et même de l'Asie. Je pense que l'existence de notre festival brise en quelque sorte une fausse légende en Chine qui dit que des grandes villes, des mégaboles de plus de 10 millions d'habitants peuvent organiser ce genre de festival. Nous montrons aussi que le petit lieu peut aussi avoir des besoins culturels. J'ai participé récemment à la journée de mon école, l'école où j'étais formée, donc l'Institut Cinéma de Pékin. Et cette année, nous avons invité des étudiants venant de 7 facultés en Chine pour montrer leur cinéma. Donc chaque jour, il y a un thème. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'Institut Cinéma Pékinois. On voudrait aussi encourager l'échange entre les jeunes réalisateurs et aussi organiser des masterclass entre les grands maîtres et les jeunes réalisateurs. Par exemple, John Tu, par exemple, Li Chengdong, par exemple, Sisek, Lastrias et M. Xu Zheng vont donner des masterclass.
Alors, pardonnez-moi, Jiazhangke, de revenir encore 30 ans en arrière, mais après tout, vous l'avez dit vous-même, vous faites du cinéma pour filmer le temps qui passe. Si on regarde le temps passé, si vous devez comparer le jeune cinéaste que vous étiez il y a 30 ans et ceux qui commencent à faire du cinéma aujourd'hui, quelles sont les difficultés qu'ont les jeunes par rapport à ce que vous, vous faisiez et qu'est-ce qui est plus facile pour eux ?
Il y a effectivement quelques petites différences. Il y a 30 ans, c'était des jeunes cinéphiles qui désiraient voir le cinéma mais qui n'y arrivaient pas. 30 ans après, en fait, nous sommes dans l'ère Internet où les gens peuvent avoir du cinéma mais ils ont difficulté de choix. Il y a trop d'informations. Alors maintenant, notre festival sert à justement leur donner une sélection de choix pour mieux les guider.
Là, vous parlez du spectateur, du cinéphile. Moi, je parle du cinéaste. Vous, quand vous avez commencé, vous n'étiez pas nombreux à faire les films que vous faisiez, mais on ne pouvait pas les voir parce que la censure les bloquait. Aujourd'hui, les cinéastes sont très nombreux. Je ne sais pas combien de centaines, peut-être un millier de films se font en Chine chaque année, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les voir. Est-ce que votre festival à Pingyao, mais aussi le réseau de salles que vous êtes en train d'ouvrir et de coordonner, de salles d'arrêt essai en Chine, vise justement à ce qu'on puisse voir ces films ?
Alors justement, notre festival est une fenêtre pour le public étranger et chinois, pour le cinéma d'auteur, pour le cinéma indépendant. Le cinéma, en fait, vous savez, 30 ans après, le public chinois peut voir beaucoup de films par rapport à il y a 30 ans, donc le chiffre se multiplie, mais la quantité, même si elle est très grande, le type de film qu'on peut voir reste assez restreint. C'est surtout les films type hollywoodien ou des copies de films commerçants. Donc ces jeunes auteurs ne sont pas vus parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de le cinéma commercial. Avec l'alliance de projection de films indépendants et artistiques, nous voudrons justement trouver des chemins, des façons de montrer ce cinéma indépendant. Et pour moi, le festival est une fenêtre avec un échange à double sens. Le public peut avoir un choix multiple de cinéma étranger et les journalistes peuvent aussi voir d'autres films qui portent une valeur culturelle et pas que les films commerciaux. Et puis les créateurs, donc les auteurs, peuvent aussi profiter de l'occasion pour parler directement au public et aux journalistes. Pour moi, ce qui compte, c'est l'échange, c'est le face-à-face direct.
Et puis, par rapport à vos débuts, Jiazhangke, vous avez eu une reconnaissance internationale. Je rappelle un Lion d'Or pour Still Life à Venise, un prix du scénario pour A Touch of Sin et beaucoup de prix partout dans le monde. Et puis, vous avez été élu cette année député à l'Assemblée nationale populaire, député de votre province, la province du Shanxi. Est-ce que vous avez de fait la possibilité de porter cette parole auprès du pouvoir chinois? Et est-ce que vous avez le sentiment que du côté des instances du cinéma, de la culture en Chine, on est sensible à cette question de besoin de diversité dans l'offre cinématographique qui est proposée aux spectateurs chinois?
Vous savez, pour moi, un élu, il porte deux fonctions sur lui. D'abord, il doit représenter l'industrie, donc pour moi le cinéma, et il doit représenter aussi la province qu'il a élue, donc le Shanxi, et puis répondre à des questions, ou transmettre plutôt des questions les plus pertinentes pour le peuple de ma province du Shanxi, et puis aussi aider à proposer des lois dans l'Assemblée nationale. Et la raison pour laquelle que j'ai pris la décision d'être élue à l'Assemblée nationale, c'est parce que je pense que il vaut mieux que je prononce sur des questions cruciales que de laisser la parole à des gens qui sont plutôt silencieux, qui ne veulent pas se prononcer. Vous savez, il y a 10 ans, si vous regardez un rapport du Conseil d'État chinois, il y avait très peu de mots sur la culture ou le cinéma. Mais 10 ans après, vous voyez, dans le rapport du Conseil d'État, il parle très souvent de la diversification culturelle. Donc, je pense que le gouvernement porte beaucoup d'attention à la culture. Et maintenant, je voudrais profiter de cette occasion, de cette chance, de prononcer pour ma province, de prononcer pour mon industrie. Je ne veux pas lâcher l'opportunité, parce que je voudrais me battre avec tous les moyens disponibles pour parler qui représente toute l'industrie de cinéma.
Alors on l'a entendu, Jiazhangke, vous êtes très occupé. Vous présidez un festival, vous êtes député, vous êtes producteur aussi, on l'a pas dit, hein, vous aidez beaucoup de jeunes cinéastes, vous avez ce réseau de salles, Mais nous, ce qu'on aime beaucoup chez vous, c'est que vous êtes cinéaste. Alors on a été rassurés, on a vu un film de vous, très beau film à Cannes cette année qui s'appelle Les Éternels. Mais comment vous faites avec cette vie que vous menez pour avoir encore le temps de rêver à des films à faire? Parce qu'on espère qu'on verra encore des films de vous.
En fait, ce que vous voyez comme le Jia Zhengke occupé, c'est ce que vous voyez dans le journal, à la télé. Et en fait, une fois que j'établis l'onigramme de tous mes projets, je travaille quand même dans le cinéma. Vous voyez, là, il y a une équipe professionnelle de gestion pour le festival. Il y a tout à l'heure, je vous ai parlé de l'équipe de sélection. Donc, je me repose beaucoup sur l'équipe. C'est très important pour moi. Et après, je fais encore tous mes efforts pour faire du cinéma. Vous savez, si je peux blaguer, je pense que avant, si je buvais beaucoup d'alcool ou je passais beaucoup de temps à rien faire, maintenant, ce temps économisé, je le mets dans le cinéma et c'est tant mieux.
Je
me dis que si je fais quelque chose et que je continue à le faire, elle va forcément devenir une institution. Et je ne veux pas ça. Je veux toujours être anti cette tendance d'institutionnalisation. Donc, ma façon d'agir, c'est d'établir quelque chose comme structural. Et après, je laisse cette chose à des gens plus professionnels. Et comme cela, j'échappe à ces trajectoires d'institutionnalisation.
Marco Müller, Jia Zhengke nous a expliqué l'importance pour lui que ce festival se passe ici à Pingyao, dans une petite ville de sa province, du Shaanxi. Quelle est l'importance pour vous également que ça se passe ici par rapport à des villes qui seraient beaucoup plus importantes?
Il m'avait recommandé de passer du temps à Pingyao. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que non seulement c'est une ville très accueillante, qui a en plus une tradition d'hospitalité, mais c'est aussi une ville concentrée. Donc l'idée que tout le festival se passe dans un lieu bien précis, l'ancienne usine de moteurs diesel, c'est justement l'opposé des grands festivals, des grosses machines comme le festival de Pékin ou le festival de Shanghai, où en fait, si vous avez envie de parcourir un peu toute la carte même géographique du programme, en fait, vous n'arriverez jamais à rattraper le deuxième film qui vous intéresse, parce qu'il faut prendre un taxi dans une ville où le trafic est, par définition, bloqué de 9h du matin à 9h du soir. Et donc, c'est vraiment pas facile de composer son propre programme dans des villes comme Pékin ou Shanghai, pour un spectateur et même pour un professionnel de cinéma.
Alors, le pari est d'ores et déjà gagné parce que les salles sont pleines. Il y a vraiment une vraie ferveur pour ce festival. Est-ce que vous avez le sentiment que le festival remplit un manque et qu'il y a un désir d'un cinéma un peu différent de ce qu'on peut voir dans les multiplexes qui se construisent un peu partout en Chine?
Quand on a commencé, Marie-Pierre et moi, à discuter avec Jia du projet Pingyao en début 2015, l'idée c'était un peu de créer la bonne plateforme pour donner une visibilité aux films susceptibles après de rentrer dans le marché du cinéma d'essai, et notamment de faire partie des films très sélectionnés que la nouvelle alliance du cinéma d'essai créée par 6 personnes, dont évidemment Gianluca fait partie. Gianluca est une figure de proue et c'est aussi une marque, hein, une marque de qualité par rapport au cinéma d'auteur, au cinéma original en Chine. Il aurait été tout à fait naturel que ce festival devienne vraiment la tête de pont pour pousser les films dans le marché. On aurait pu, au-delà d'une première attractivité esthétique immédiate des films, aussi révéler aux distributeurs une valeur marchande. Alors le grand problème, c'est que ce fameux circuit d'essai, oui, il existe bien, mais il n'a jamais vraiment démarré. Disons que pour la première période, le circuit des salles d'essai a été créé et lancé en octobre 2016. Mais depuis, il est entre les mains de la Cinémathèque de Pékin. Et la Cinémathèque de Pékin, ils ne sont pas forcément des professionnels dans ce domaine. C'est évidemment c'est une équipe de chercheurs, c'est des gens très bien. Et ils ont même évidemment des consultants en marketing. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de véritable succès sorti de quelques films américains, par exemple Manchester by the Sea, c'est le seul film qui a fait des recettes un peu importantes, et Gianluca lui-même, quand il a sorti son premier film à épisode consacré aux 5 pays BRICS l'année dernière, Where Has Time Gone, c'est le titre en anglais, il a choisi de passer par le circuit de salles qui appartiennent au Shanghai Film Group plutôt que d'aller dans les salles, parce que forcément ça devient vous parliez donc des multiplexes, et évidemment c'est pas un circuit de salles qui se fait spécialement, donc disons que les multiplexes acceptent volontiers de consacrer une salle au cinéma d'essai, mais si les films ne marchent pas, et de toute façon il faudrait quand même un énorme budget de promotion et lancement pour que le film soit visible pour le public chinois. Les spectateurs chinois sont bombardés par des renseignements sur des films qui sont évidemment toujours les blockbusters qui ressemblent aux blockbusters qui ont eu du succès la saison précédente. Donc, c'est vrai que là, il y avait un enjeu qu'on n'a pas encore pu pousser jusqu'à l'aboutissement final. Mais c'est vrai aussi que on arrive là à révéler cette valeur marché des films de par la participation des spectateurs dont vous parliez. Le véritable problème étant que les distributeurs qui achètent des films très originaux, ben c'est souvent les gens qui achètent des catalogues au kilo, pour mieux dire à la tonne. Et donc, parfois, ils sont même pas là. Ils sont même pas là pour voir comment la projection se passe. Si jamais le film remporte le prix du public, c'est là qu'ils vont bouger. Mais être sûr qu'ils puissent vraiment faire quelque chose avec le film, il y a un grand point d'interrogation là.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose à inventer en Chine, qui est ce circuit d'arrêt essai qui n'existait pas du tout. Mais alors, vous l'avez dit, Jiajiangke, c'est une marque. Et c'est vrai que le spectateur français qui connaît bien les films de Jiajiangke et qui avait l'image d'un Jiajiangke cinéaste underground dont les films n'étaient pas distribués, qui gagnait des prix dans tous les festivals, et notamment grâce à vous, quand vous l'aviez sélectionné à Venise pour Still Life, où il avait remporté le Lion d'Or, c'était en 2006. Et on arrive ici, en 2005, pardon, et on arrive ici, on voit des t-shirts à l'effigie de Jiajiangke, les noms des salles prennent les noms de ses films, et lui est mis très en avant. Quelle est l'image aujourd'hui de Jiajiangke en Chine?
C'est justement la figure du proue d'un cinéma, d'une certaine façon, non réconcilié. C'est un peu le paradoxe. Donc si vous demandez à Dia, lui-même vous dira que, oui, certes, il est devenu parlementaire, mais sans pour autant renoncer à être une voix indépendante, et qu'il va se battre au Parlement chinois pour les nouveaux cinéastes, pour qu'il y ait des systèmes de soutien pour le cinéma non normalisé. Donc c'est, et en même temps, justement, il a cette force, puisque si vous commencez à consulter régulièrement l'internet chinois, vous verrez qu'il est vraiment très présent. Tout cela a un prix, par exemple. Il est très présent parce que au moment de la promotion de Ashes, the Purest Wife, son dernier film, il est allé dans des discothèques et il a dansé au rythme de la musique disco. Donc là, il a eu plusieurs millions de touches. Donc c'est un peu ça la Chine, je veux dire. Il faut toujours... Nous, depuis le premier jour du festival, on a reçu tous les jours des visites des autorités. Donc ça veut dire qu'une bonne partie du temps, on la passe à expliquer notre projet aux autorités et que finalement, donc on espère que cela va nous donner la possibilité aussi de faciliter l'accès au festival, par exemple au peuple. Le peuple cinéphile, Jiajiaqi l'a chiffré, par exemple la dernière tournée qu'il a faite pour promouvoir son dernier film, il a chiffré à entre 45 et 50 millions d'individus. Pour la Chine, c'est peut-être rien, mais pour nous, ça sonne évidemment énorme. Mais cela veut dire aussi que il faudrait commencer à mieux connaître donc ce peuple cinéphile, parce que souvent il est composé par des étudiants ou des... Il y a une belle expression en chinois, c'est Wen Qing Nian, ça veut dire Wen Qing, veut dire adolescents et jeunes gens cultivés. Donc c'est forcément surtout des étudiants, mais des gens qui ont un certain niveau de culture et qui ont déjà donc une faim et une soif pour quelque chose d'autre et d'autre une fois pour toutes. Mais ces gens, c'est probablement aussi des gens qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont pas le sou pour faire le voyage de Pingyao. Pour l'instant, il n'y a pas d'aide pour organiser, par exemple, des paquets hôtels, repas, accréditation. Tout cela, non seulement demande un investissement en argent, mais demande aussi beaucoup de permissions dans ce pays.
C'est vrai que le pouvoir central envoie des signaux qui nous semblent un peu contradictoires sur le cinéma. Le cinéma jusqu'à la fin du XXe siècle était considéré comme un enjeu idéologique. Enfin, il fallait vraiment que les films transmettent un message. Au début des années 2000, tous ces cinéastes de la sixième génération, dont Jia Zhangke, vont être un peu réintégrés au système. On va effacer les ardoises précédentes et on va plutôt développer le cinéma comme une industrie à ce moment-là. Et puis, depuis 2 ans, il y a une loi qui a été votée réaffirmant que le cinéma doit transmettre des messages à caractère socialiste. Donc comment peut-on louvoyer et qu'est-ce qu'on comprend des vraies intentions du pouvoir central vis-à-vis du cinéma?
Ouais, bien sûr, mais ce qui s'est passé cette année, c'est surtout que le cinéma qui faisait partie de, disons, que quelque chose un peu comme un ministère, le ministère des médias, a été sorti du ministère des médias et ramené sous le contrôle direct du département propagande. Cela a créé une période de flou, puisque les nouveaux responsables de la propagande n'avaient pas l'habitude, par exemple, de juger des films. Donc, on a créé des piles de films qu'on ne savait pas comment traiter. Et à un moment donné, ce bouchon dans la censure, heureusement, a été enlevé et on a pu finalement commencer à savoir quel film on aurait pu considérer. Parce qu'ici, c'est obligé, tous les films qui passent dans le festival doivent avoir au préalable un visa de censure. Mais disons, le climat a changé, mais c'est pas forcément dans le sens d'une... une réintégration donc de la mission idéologique du cinéma, puisque si vous regardez notre programme, un film comme la Caméra d'or de Cannes, Girl de Lucas Daunt, il a passé la censure. Ou alors Manta Ray qui parle de Rohingya, tout en sachant que l'armée chinoise combat les Rohingyas en Birmanie. Ça fait rêver aux possibilités de justement profiter des trous dans le système de censure. C'est vrai aussi que nous, par rapport aux autres festivals chinois, on ne coupe pas les films. Hein. Ça, c'est l'année dernière, on a eu des problèmes par rapport à ça, et on a décidé que cette année, c'était soit on pouvait monter un film dans son intégralité, soit on ne le montrait pas.
C'est vrai que c'est étonnant quand on regarde le festival de l'an dernier, le film qui remporte le prix du meilleur réalisateur, c'est Have a Nice Day, dessin animé de Liu Jian, qui, quelques mois avant, avait été interdit de projection à Annecy parce que les autorités chinoises avaient interdit qu'on le projette. Donc on ne peut pas le projeter à Annecy, mais on peut le projeter ici et il remporte un prix.
Ouais. Disons, c'est comment on appelle ça en français ? Une valve de...
Une soupape de secours.
Voilà, une soupape de secours pour permettre un peu de... du vapeur créé par l'énergie accumulée de sortir, et aussi parce que, tout simplement, il faut se le dire, trois projections, ça ne fait pas peur. Les mêmes films qui ont été achetés par les plateformes VOD sortiront avec beaucoup de modifications. Ne serait-ce que le Festival de l'Union Européenne qui est organisé à Pékin après les dates de Pingyao, ils nous ont déjà dit que ils ont reçu la permission de montrer Girl, mais qu'il faudra qu'ils coupent quelques minutes du film, déjà pour la présentation à Pékin. Cela expliquerait aussi le choix de Pingyao. Si vous regardez l'histoire des mouvements de nouveau cinéma en Chine, vous découvrirez que Terre jaune de Chiang Kai-ge ou 1 et 8 de Zhang Jinzhao, ils ont pu exister puisque les cinéastes sont allés les tourner dans les studios du Guangxi. Donc, plus loin du pouvoir central, on ne peut pas.
Et ce qui a changé aussi cette année, c'est une affaire qui a fait beaucoup parler, et y compris en Europe, c'est l'affaire Fan Bingbing, la plus grande star chinoise qui disparaît pendant 3 mois et qui fait acte de repentance. Est-ce que le...
Une amende considérable.
Est-ce que le pouvoir chinois, là encore, ne s'est pas rendu compte tout d'un coup qu'il y avait beaucoup d'argent dans le cinéma chinois sur lequel il n'avait pas tant de contrôle que ça ? Et en quoi ça peut impacter une manifestation qui semble très à l'écart, mais Fan Bingbing était ici l'an dernier pour inaugurer le festival.
Mais disons que Fan Bingbing était ici parce qu'elle avait une dette de reconnaissance envers Jia Zhangke, qui était président du jury, qui lui avait, pour la première fois, donné un prix dans un festival étranger, à Saint-Sébastien. Mais on peut quand même s'imaginer que tout ce qui va se passer dans un domaine qui est celui des grandes productions, des grands groupes, ne va pas vraiment nous intéresser, tout simplement parce que là, on parle vraiment des films dont le budget a pu grimper avec une vitesse insensée. Je veux dire, c'est Fan Bingbing et plusieurs comédiennes, notamment Yami, qui était ici il y a 2 jours, ils recevaient des salaires, c'est Scarlett Johansson multiplié par 20 en Chine. C'est quasiment des salaires hollywoodiens, et cela évidemment fait problème. Peut-être que de cet angle-là, on peut dire que ce serait plutôt sain qu'on se demande comment on peut avoir tellement d'argent qui circule dans le cinéma sans être employé de façon rationnelle. Vous avez sûrement entendu parler des scandales. Les groupes qui achètent un catalogue de grands films occidentaux susceptibles de recevoir des grands prix. Par exemple, avant Cannes, ils achètent beaucoup de films de la compétition de Cannes, en espérant pouvoir se retrouver avec des films primés. Et tout cela, c'est pour faire monter leurs assets à la bourse. Et donc, cela veut dire qu'une fois payé la première tranche, donc une somme assez importante, ils oublient. Ils oublient les films, ils oublient de payer la deuxième tranche et de continuer donc la relation avec le vendeur. Et le vendeur se retrouve, après évidemment un litige, un an après, avec des films qui ont déjà vieilli et qui n'ont plus aucune possibilité dans le marché chinois.
Alors, on va parler pas seulement marché et finance et spéculation. Je voudrais parler de cette nouvelle génération de cinéastes chinois que vous montrez ici, dans la section New Generation China. On a eu l'habitude de parler en Chine de première, deuxième, troisième génération, etc., jusqu'à la sixième, qui est celle de Zha Zhangke, entre autres, mais aussi de Lu Ye, de Wang Xiaoshuai, Zhang Wen et tout ça. Est-ce qu'on peut encore raisonner en termes de génération? Est-ce qu'on pourrait parler d'une septième ou huitième génération actuelle? Et si c'est le cas, quelles seraient ses caractéristiques?
C'est vrai que pour des raisons d'état civil, on peut toujours parler de génération, mais là, c'est beaucoup plus important de parler d'un groupe de jeunes cinéastes qui ont apparu sur la scène seulement il y a quelques années et qui continuent d'être non réconciliés. En fait, quand vous analysez notre programme de nouveaux films chinois, il faudrait y rajouter quand même les 12 Work in Progress, les 12 films qui sont soi-disant pas finis, mais qui sont, dans la plupart des cas, des films qui n'ont pas pu passer la censure. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer d'aider ces cinéastes à trouver des partenaires notamment, par exemple, des distributeurs chinois qui les aident, parce que souvent, c'est des irréductibles qui ont tout fait eux-mêmes. Disons, c'est une équipe d'amis, souvent donc travaillant dans le cinéma. C'est des tribus de cinéastes véritablement indépendants qui ont fait des films à petit budget et qui ont fait des films qui coûteraient 1 million d'euros en Europe. Et qui, évidemment, ont du mal à passer la censure aussi parce que, voilà, ils n'ont pas assez d'expérience, ils n'ont pas les bons alliés et ils se heurtent souvent, par exemple, à l'incompréhension d'une censure régionale qui, dans la plupart des cas, ne regarde que des films très officiels.
Qu'est-ce qu'il raconte justement? Qu'est-ce qui fait que, hormis le problème de réseau, etc., ça pourrait ne pas passer à la censure? C'est qu'il montre une réalité de la Chine qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas voir en tout cas.
Oui, qui montre donc une réalité de conflits et de contradictions qui n'ont pas été résolus.
Il y a aussi des films qu'on a vus l'an dernier, enfin qui étaient en work in progress l'an dernier et qu'on a pu voir nous cette année. Hein, je pense à My Dear Friend, par exemple. Est-ce que vous pouvez mesurer déjà l'impact qu'a eu la création du festival et quelles leçons vous avez tirées de ce qui s'est passé l'an dernier?
C'est-à-dire qu'on a pu faire exister des films, mais si on continue avec l'exemple de My Dear Friend, How You, c'est évident que ce film, justement, sans un circuit de salle d'essai, qu'est-ce qu'il va avoir comme distribution? C'est un film en langue cantonaise. Pour le cantonais, je parle bien de langue et pas de dialecte. C'est une langue que très peu de gens comprennent en dehors des deux provinces du sud où la langue est parlée. Donc le film devait être sous-titré en mandarin pour être diffusé un peu partout en Chine. Les exploitants, ils ont créé, c'est monstrueux là, le nom qu'ils ont collé au film, qui mettrait à l'affiche pendant peut-être un week-end et qui, évidemment, s'il ne ferait pas suffisamment de recettes pendant le premier week-end, il sortirait immédiatement de l'affiche. Il les appelle Ijeyo, les films qui n'auront une vie que pendant un jour.
À l'inverse, on a pu voir hier un film qui s'appelle Dead Pigs, une histoire de cochon mort, qui lui, c'est un peu l'exact opposé. C'est-à-dire qu'on a une réalisatrice qui est chinoise et américaine. Le film, d'ailleurs,
est
Zha Zhangke en est le producteur exécutif. Et on apprend que cette réalisatrice va réaliser un film de super-héros pour DC Comics.
Absolument. C'est évidemment aussi un peu le rêve de beaucoup de cinéastes. Il y a beaucoup, beaucoup, parmi tous les jeunes auteurs de courts-métrages intéressants que j'ai rencontrés dans cette dernière période, sur les derniers 3 ou 4 ans, je dirais qu'il y a, peut-être qu'il y en a au moins un tiers qui étudie à New York ou en Californie. Et malheureusement, c'est souvent ceux qui auraient un véritable sens de la mise en scène et qui n'auront peut-être même pas le temps de réaliser un film ici et qui seraient tout de suite absorbés dans un circuit de production qui les éloignerait complètement donc des aussi de leur volonté de dire une certaine vérité sur la vie et sur comment on vit, comment les émotions qu'on éprouve dans ce pays.
Marco Müller, on souhaite longue vie au festival de Pingyao. Quels sont les risques qui peuvent peser sur le festival et quelles sont les chances, à votre avis, qui font qu'il peut s'installer durablement?
Par les zigzags de la politique chinoise, évidemment, puisque le festival doit demander l'autorisation d'exister chaque année. C'est-à-dire que à la fin du festival, on va tous préparer nos rapports en chinois pour bien mettre en évidence tout ce qui a pu fonctionner. Donc on va essayer de se coller un peu aux lignes guides des politiques du gouvernement. Et si cela va fonctionner, évidemment, on sera autorisé à faire le festival l'année prochaine aussi. Mais il y a toujours un petit doute qui flotte, parce que justement, c'est évident. Je parlais avec Ogden Glavon, ce magnifique documentariste qui a réalisé un premier long métrage fiction qui a débuté à la quinzaine cette année. Et il me disait que, chose que, dont on n'était pas au courant, que l'ambassade de Serbie a envoyé une protestation officielle au gouvernement chinois contre la présence de ce film au festival. Alors, je considère que c'est un des plus beaux films qu'on montre. Si jamais il devait remporter un prix, évidemment, ça peut faire un problème pour nous. Parce qu'on aura une autre protestation à ce moment-là, probablement directement du gouvernement serbe, qui n'aime pas le film. Et on m'a expliqué plusieurs fois qu'il ne faut pas se mêler des affaires internes des pays tiers. Donc, si jamais cela devait se produire, je serais accusé d'avoir fait exactement ça.
Le Festival international du film de Pingyao s'achève aujourd'hui, mais on en connaît déjà le palmarès et c'est Sony de l'Indien Ivan Ahir qui remporte le prix Roberto Rossellini du meilleur film. Quant au film dont parlait Marco Müller, celui qui a déclenché les foudres de l'ambassade de Serbie à Pékin, Teret, eh bien il vaut à son auteur Ognjen Glavonić le prix du meilleur réalisateur, pourvu que ça ne nuise pas à l'avenir de la manifestation. Dans la sélection New Generation China, on a vu un très beau film et on espère qu'un distributeur français, s'il nous écoute, aura la riche idée de le sortir en France. Ça s'appelle Three Adventures of Brooke de Yuan Tsing et c'est sous influence romérienne totalement revendiquée, une influence probablement passée par un autre grand romérien, Hong Sang-soo. Merci beaucoup pour leur aide à toute l'équipe du festival de Pingyao. En premier lieu, Catherine Giraud, Jean-Charles Canu et Rachel Chung et puis à Lin Lin pour la traduction des propos de Jia Zhangke. Jia Zhangke dont le nouveau film Les Étés qu'on vous recommande vivement, sortira en salle le 26 décembre. Jia Zhangke et Marco Müller ne sont évidemment pas les seuls à subir les pressions politiques de gouvernements nationaux comme étrangers. L'excellent festival international de documentaires Doc Lisboa à Lisbonne, qui s'est ouvert jeudi, a ainsi vu l'ambassade d'Ukraine exiger que soit retiré du programme Their Own Republic d'Aliona Polunina, tandis que celle de Turquie s'indignait, elle, dans un texte du catalogue sur la section Navegar au Euphrates, qu'on use d'expressions comme génocide arménien. L'équipe du Doc Lisboa tient bon et rappelle, à bon entendeur salut, qu'un festival en général et le sien en particulier, c'est un lieu de discussion et pas de censure. Doc Lisboa, c'est jusqu'au 28 octobre. Histoire de rester en Chine, peu ou prou, on signale côté sortie DVD et Blu-ray celle des merveilleuses aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter. C'est à l'atelier d'images. Et puis enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, l'intégrale en version restaurée chez Le Pacte, des films de Jean-François Stévenin, accompagné du livre de Yann Dedé, Le Point de vue du Lapin. Les deux étaient nos invités dans Plan Large, c'était le 21 avril dernier. Une émission à réécouter en podcast sur le site de France Culture où vous trouverez, comme toujours, toutes les informations utiles et nécessaires grâce à Pascaline Bonnet. Mais pour l'heure, il est temps de laisser Mathieu Macheret, à nos risques et périls, ouvrir une des sept portes de l'enfer. Thank you.
l'une dei stregoni. Per colpa tua questo paese, belgo, saranno maledetti in eterno.
Le sette terribili porte sono nascoste sulla terra e nel mare, in sette luoghi maledetti. Guai a chi si avvicinerà senza sapere.
Attenti a quello che fate. Questo albergo è stato costruito su una delle sette porte del male. Solo io posso salvarvi.
Torture sophistiquée, chair déchiquetée, marécages pestilentiels et remugles infernaux, j'ai vraiment l'impression d'être François Angelier. Voilà toute l'atmosphère putride et macabre qui émane des films de Lucio Fulci, prince d'un cinéma bis, turbulent et halluciné, né en 1927 à Rome et mort dans la même ville en 1996. Cinéaste polymorphe, s'étant illustré dans la plupart des genres du cinéma populaire italien, de la comédie dénudée au polar ultra-violent en passant par le giallo et le western spaghetti, Fulci s'est pleinement affirmé dans le cadre d'un cinéma d'horreur volontiers outrancier, gore et onirique. Après l'enfer des zombies, Artus Film ressort dans un beau digipack DVD Blu-ray L'au-delà, en VO Et tu vivras in el terror et l'aldilà, film de 1981 sombre et nihiliste, réputé comme son chef-d'œuvre et venant clore après Frayeur, un cycle des enfers où l'horreur prend une dimension quasi métaphysique, Mathieu Macheret.
Oui, métaphysique, ça c'est sûr. Aussi très très physique, parce que dans les films d'horreur de Lucio Fulci, le mal détruit, mais le mal n'est pas personnifié. C'est une essence qui se répand sur la terre, un air vicié et flottant qui contamine tout, une substance invisible qui corrompt le vivant et étend toujours plus loin son territoire. L'horreur n'a pas de visage, mais seulement des effets. C'est un principe corrupteur, une pestilence. Fulci, c'est le cinéaste de la décomposition, de la pourriture, de la putréfaction. On est dans une très bonne atmosphère. Non seulement des corps humains, violemment lacérés, brûlés, dévorés, fondus, mais aussi du monde, qui semble à chaque fois, en tout cas dans ces films d'horreur, dépeuplé. Et sans doute, c'est une conséquence des petits budgets aussi dans lesquels il opérait. Et se dégage de ces films une poésie morbide, fondée sur une exagération du désir de voir, parfois même dans des dimensions quasi pornographiques, puisque l'œil se perd dans les marécages du visible, dans la corruption des chairs, et plonge souvent à l'endroit de l'interdit. Alors c'est d'autant plus vrai dans ce cycle des enfers, et puis dans l'au-delà, puisque c'est des films qui reposent à chaque fois sur un principe horrifique simple. À chaque fois, des humains, par mégarde, ou par bêtise, ou que sais-je, ou par intérêt, défont, décèlent une des sept portes de l'enfer, et libèrent parmi eux un principe destructeur qui va les décimer, et donne chaque fois lieu à des mises en scène perverses et délicieusement sophistiquées. L'au-delà, qui est situé en Louisiane, et même tourné in situ, pour la modique somme de $400,000, c'est vraiment pas beaucoup, s'ouvre avec son prologue en 1927 sur la prise d'assaut d'un hôtel dans un bayou par un groupe d'hommes venus lyncher un peintre apocalyptique, celui-ci est crucifié, brûlé à la chaux vive et son exécution ouvre la trappe infernale qui transforme l'hôtel en un lieu maudit. Et 50 ans plus tard, une jeune New-Yorkaise héritière des lieux décide de restaurer l'établissement, mais il y a plein d'accidents violents qui arrivent, des phénomènes étranges qui vont altérer un petit peu la réalité autour d'elle. L'histoire ne va pas beaucoup plus loin, c'est souvent ça qui est intéressant chez Fulci. Le scénario consiste simplement à mettre en présence un groupe de personnages, alors un médecin, des employés, des voisins, des connaissances de l'héroïne, pour les éliminer à chaque fois dans des circonstances de plus en plus macabres. Alors la mise en scène est orientée vers ces moments de bascule où l'horreur ne surgit pas, c'est important, mais s'écoule lentement comme une sorte de flux délétère, un dérèglement de tous les principes naturels. Les atteintes faites au corps humain sont d'une inventivité, il faut bien le dire, d'un sadisme assez sidérant. Il y a une mère fondue à l'acide et dont la mousse organique se répand au pied de sa fille. Il y a un homme paralysé et déchiqueté par une armée de mygales. C'est, voilà, abominable. Un clou planté au mur qui permet d'énucléer une victime par l'arrière du crâne, c'est très acrobatique, avec quand même cette petite constante que la réalité la plus familière est souvent susceptible de se retourner contre nous. Bien les gargouillements, hein. C'est la carotide arrachée d'Emily, c'est ça qui est important. C'est une jeune aveugle qui est attaquée par son chien guide, hein, qui se retourne tout à coup contre elle. Et le son joue évidemment un rôle majeur dans l'emphase de tout ce qui est répugnant. Le décor du film, cet hôtel est rongé par les infiltrations, envahi d'eau boueuse et vomit son lot de cadavres putréfiés. Et ben cet hôtel métaphorise le retour implacable d'un refoulé énorme, celui d'une culpabilité qui dépasse complètement les personnages et s'enracine dans l'histoire même de la civilisation occidentale. Hein. Le détour par 1927 et les États-Unis n'est pas innocent. Évidemment, c'est difficile avec cet énorme refoulé fangeux de ne pas penser en même temps à la dégénérescence qui était celle du cinéma italien de l'époque, qui était disséminé en plein de sous-genres un peu hybrides et qui copiait jusqu'à plus soif les succès américains, pillant et mutilant sans scrupule l'inspiration venue d'ailleurs et bientôt prêt à être pulvérisé par la télévision berlusconienne. Et c'est aussi de cela que parle l'au-delà, et son sentiment apocalyptique, évidemment, n'a pas fini de résonner avec notre monde d'aujourd'hui et notre présent.
Merci Mathieu pour cette chronique très mauvais genre. On se quitte sur la musique composée pour le film par Fabio Frizzi, histoire de prolonger le cauchemar. L'au-delà de Lucio Fulci sort en digipack Blu-ray DVD chez Artus Film, accompagné du très passionnant livre dirigé par Lionel Grenier, La Louisiane de Lucio Fulci à Neil Jordan, exploration d'un territoire des morts. Plan large en Chine et en enfer, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son Théo Gomard, l'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisé par Somani Na. La semaine prochaine, après la Chine, nous irons au Japon. Ce sera un week-end spécial Nippon sur France Culture à l'occasion de la saison culturelle japonisme. À plan large, nous parlerons du grand Takeshi Kitano, dont les trois premiers films Violent Cop, Jugatsu et Sonatine sortent en version restaurée en Blu-ray et DVD. Après trois autres, il y a quelques mois, nous serons avec le cinéaste et grand ami du japonais Jean-Pierre Limousin et un spécialiste de son œuvre, Benjamin Thomas. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.